Alors, je vous remercie beaucoup de votre hospitalité et je vais d'emblée vous demander de bien vouloir m'excuser parce que quand j'ai compris qu'il fallait parler 30 minutes, je me suis dit qu'avec la question de l'indialectique, je n'y arriverais pas parce qu'il me faudrait Sartre, Blanchot, Bataille, etc. J'ai donc plus modestement décidé d'esquisser un motif. C'est plus facile pour cette durée de parole. Un motif qui est inhérent à quelques cercles ou quelques volte-face engagés par Barthes depuis les années 50 jusqu'à la chambre claire. Relativement à la question des images, je serais même plus précis, je dirais des images de l'émotion, aussi bien naturellement que des émotions éprouvées devant les images. Vous vous souvenez sans doute des phrases par lesquelles s'ouvre le Roland Barthes par Roland Barthes, phrases qui sont composées dans une typographie italique qui est comme une inversion, comme un négatif photographique du cours normal du texte à venir. Voici pour commencer quelques images. Elles sont la part du plaisir que l'auteur s'offre à lui-même en terminant son livre. Ce plaisir est de fascination et par là même assez égoïste. Je n'ai retenu que les images qui me sidèrent, sans que je sache pourquoi. Cette ignorance est le propre de la fascination et ce que je dirai de chaque image ne sera jamais qu'imaginaire. Me voici dès lors en état d'inquiétante familiarité. Je vois la fissure du sujet, cela même dont il ne peut rien dire. Ce texte, vous le savez bien, ouvre un livre extraordinaire qui est comme l'autographie sensible d'un penseur qui se prend lui-même jusque dans les détails les moins conventionnels comme objet d'écriture. Il y aura donc du « moi » partout et il y aura, parce que Barthes n'est pas sans savoir que cela fait psychanalytiquement partie de la consistance même du « moi », il y aura des images. Ce qui est engagé, en fait, à cette époque, une volte-face, je dirais, un pari nouveau de Barthes par rapport à ses positions critiques jusque-là développées à l'endroit des images et de l'imaginaire. Le premier pari, eh bien, il ne s'agit plus désormais de se contenter de critiquer les images sur le plan idéologique, comme c'était dans les mythologies, ou sur le plan sémiologique, comme dans le message photographique. Il s'agit désormais de rappeler les images à soi, donc de s'engager, fût-ce égoïstement, comme il dit dans le texte que je viens de citer, dans la fascination et dans l'imaginaire. Donc de se risquer, au fond, à un second pari, celui de s'engager dans l'ignorance, dit-il. L'ignorance que suppose la fascination, la sidération et la jouissance immédiate, hein, ce sont les termes qu'il emploie, des images. Mais Barthes n'est pas unilatéralement, et je dirais loin de là, parce que chez lui il n'y a jamais rien d'unilatéral, Barthes n'est pas un homme de l'autosatisfaction moïque, je dirais. Cet engagement imaginaire est pour lui avant tout inquiétude. Il se tourmente, il s'enchante tour à tour, comme on le dit dans le passage que je viens de citer, mais aussi par exemple dans les fragments d'un discours amoureux. C'est un pari en fait phénoménologique. C'est le pari de décrire cette inquiétude et que cette inquiétude alors prenne valeur de connaissance, malgré tout. C'est un pari admirable en ce qu'il n'hésite pas à entrer dans la bizarre porte de ce dont vous avez parlé, l'inquiétante familiarité, l'étrangèreté de l'image, dont il espère écrire ce qu'il voit dans ce qu'il ne peut rien dire. C'est quand il dit « je vois la fissure du sujet, cela même dont il, c'est-à-dire je, ne peut rien dire ». Écrire cette inquiétude, donc, Barthes entre ici en 1975, dans le dernier cercle, je dirais, d'une longue évolution et dans l'ultime volte-face de ses relations avec l'image. Il s'agit à présent de retrouver, mais à de tout nouveaux frais, tout ce qui avait été revendiqué, et moi j'adore ces textes des années 50 sur la tragédie, mais très vite révoqué dans les mythologies et dans toute cette configuration, cette relation aux images. Il me semble que la situation des pleureuses d'Odessa dans la scène de lamentation du cuirassé Potemkin d'Eisenstein joue comme le paradigme absolument central, comme si c'était le fléau de la balance de toute cette oscillation de Barthes vis-à-vis des images des émotions et des émotions devant les images. En 1977, dans un très beau texte qui s'intitule « Droit dans les yeux », Barthes fait remonter, pour ainsi dire, le motif émotif dans la thématique du signe inquiet qu'il cherche alors à expliciter, et il parle d'une image. Cette image, donc, je ne vous la montre pas, puisque lui-même ne la montre pas. Donc, respectons, comme il est plus tard, la photo du jardin d'hiver dans la chambre claire. Et il décrit l'image. Massacre au Cambodge. Les morts déboulinent de l'escalier d'une maison à moitié démolie. En haut, assis sur une marche, un jeune garçon regarde le photographe. Les morts ont délégué aux vivants au singulier, donc c'est lui le jeune garçon, la charge de me regarder. Et c'est dans le regard du garçon que je les vois morts. Texte magnifique, ému. Texte émouvant, bref. Il cache pourtant une réelle complexité qui est due sans doute à la volte-face qui, à ce moment-là, commence de se jouer. Il y a, dans la photo qu'il vient de décrire, l'horreur d'un massacre que documente la photographie. À ce titre, elle devrait ressortir dans le système des valeurs mises en place depuis les mythologies, et puisqu'il l'a vu dans le Nouvel Obs ou par image ou je ne sais quoi, elle devrait ressortir donc à la surconstruction, comme il appelait ça à l'époque, et à l'émotion, comme il disait, poisseuse des photoshocks, tout au moins au sens obvie de l'image. Mais deux éléments vont permettre à Roland Barthes de la regarder autrement, cette image, et d'y trouver quelque chose comme un sens obtus, c'est-à-dire comme là une préfiguration de ce qui se voit dans la chambre claire, et il y a plusieurs exemples dans la chambre claire, notamment cette image d'un jeune garçon qui regarde droit dans les yeux. Dans la description de la photo du Cambodge, ce sens obtus, c'est le jeune garçon lui-même, être vivant, être aimable, en contrepoint à l'horreur. Et c'est son regard dirigé vers l'objectif, donc vers Barthes lui-même regardant la photographie. Fascination. Fascination, donc, fascination très précisément de l'aimable mêlé au funèbre de la situation. Et ça serait le titre de ma proposition, là. C'est sur l'image comme nœud de l'aimable et du funèbre. Tout se joue dans ce rapport ténu, comme il dit lui-même, à partir duquel il pourra s'émouvoir des morts eux-mêmes, ou tout au moins les regarder, mais par la grâce, car c'en est une pour lui, une grâce, de cette délégation de regard qui vient d'un jeune survivant en deuil de tous ses proches. Qui sait, les morts qui déboulinent, c'est peut-être sa famille. L'année même où il écrivit ce texte, Barthes accordait à Angelo Schwartz un entretien qui fut publié seulement en 80, où il esquissait le motif essentiel de la chambre claire, c'est-à-dire un contact avec la mort induit par la photographie. Ce contact avait été suggéré en termes théoriques dès 1964 dans la rhétorique de l'image, où il y a déjà tout le vocabulaire de l'avoir été là. À présent, en 1977, Barthes commence de plier le motif théorique développé auparavant sur le motif autobiographique et donc sur ce que j'appelle le motif émotif, tout cela dans une sorte de dialectique encore floue, d'ailleurs indialectique, refoulée, voire, je dis refoulée parce que c'est lui-même qui le dit comme ça, de la fascination d'une part, c'est-à-dire regard dans un regard, et ça c'est l'aimable, la grâce de l'aimable, et du chagrin, regard sur un mort, le funèbre. Je cite cette interview avec Schwartz. Chaque acte de capture et de lecture d'une photo est implicitement, d'une façon refoulée, dit-il donc, un contact avec ce qui n'est plus, c'est-à-dire avec la mort. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait aborder l'énigme de la photo. C'est du moins comme ça que je vis la photographie, que je vis, c'est très beau, hein, je vois, je vis, comme une énigme fascinante et funèbre. Fin de citation. L'aimable, donc, et le funèbre. On est là de plein pied avec les deux motifs fondamentaux de la chambre claire. On se souvient que le livre prend son départ d'un désir ontologique, dit Barthes, à l'endroit de ce qu'il nomme, comme autrefois faisaient les grands philosophes avec leur grand concept, la photographie avec un P majuscule. Il s'agissait de prendre acte du lien indéfectible de toute photographie avec son référent, et alors, presque immédiatement, pour parler de ça, dès le début du livre, surgit le nœud crucial de l'aimable et du funèbre. On se souvient sans doute de ces phrases. On dirait que la photographie, P majuscule, emporte toujours son référent avec elle, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre. Au sein même du monde en mouvement, ils sont collés l'un à l'autre, membre par membre, comme le condamné enchaîné à un cadavre dans certains supplices, ou encore, semblable à ces couples de poissons, les requins, je crois, au dire de Michelet, qui naviguent de conserve comme unis par un coït éternel. Alors, tout semble dit, là, dans cette immobilité amoureuse ou funèbre de la photographie qui appelle chez Barthes ces comparaisons extraordinaires, hein, avec des situations extrêmes de supplice ou de coït. Mais ce que connotent de telles comparaisons, il est encore difficile de l'énoncer frontalement, donc il va falloir l'amener progressivement, le déployer narrativement, théoriquement, jusqu'au point central encore innommé, et c'est alors que la photographie devient intraitable, indomesticable, indialectique, inassimilable à la ressemblance, inassimilable à tout ce qui l'attire vers l'art, et notamment la peinture, inassimilable, on rejoint ce que disait Julia Kristeva tout à l'heure, à ce qu'il appelle le code civilisé des illusions, inassimilable enfin au trait génétique par lequel, album de famille aidant, on veut croire à une permanence héréditaire de la figure humaine. Et voilà que le désir ontologique de Barthes à l'endroit de la photographie se divise à son tour. D'un côté, il voulait nous révéler ce que la photographie est en soi ou en général, par quelques traits essentiels, dit-il, et comment elle se distingue de la communauté des images. C'était ça le projet, l'avoir était là, le ça a été, etc. Sauf qu'à un moment donné, comme il dit lui-même, c'est l'impasse. Au moment même où il veut que surgisse l'essence, c'est l'impasse de l'ontologie. Or, cette impasse de l'ontologie, cette impasse quant à une définition du noème de la photographie, comme il dit, sera en même temps sa voie royale, évidemment. C'est sa voie royale, c'est son kairos d'écrivain, c'est sa bifurcation décisive vers ce que la chambre claire va nous offrir de plus remarquable à la fin, c'est-à-dire cette autographie née de la photographie. Il y a sans doute, de façon très générale, une énigme fascinante et funèbre en toute photographie, mais ni l'aimable, c'est-à-dire le fascinant, ni le funèbre, c'est-à-dire le douloureux, n'existe ni ne s'éprouve en général. C'est donc bien cette personne-ci qui sera aimable aux yeux de Barthes, jamais le genre humain en général, et jamais tel ou tel groupe de personnes. Par exemple, on n'aime pas le petit peuple d'Odessa qui pleure devant le matelot Vakulinchuk. On n'aime pas la communauté des gens du Cambodge qui sont morts. Non, on aime cette personne-ci, jamais quelqu'un en général. La chambre claire, c'est une sorte de chant funèbre et en même temps une sorte d'art divinatoire. Tous ces bouts de tissu, ces mailles, ces grains, ici le soulier à brides, les souliers à brides, toutes ces petites choses que Barthes choisit dans le champ de l'image sont exactement, peut-être, c'est mon hypothèse, l'équivalent d'un templum divinatoire réduit à de minuscules surfaces, à des points, à des puncta. Ne relève-t-il pas donc du geste de la ruspice auquel tout un paragraphe de Roland Barthes par Roland Barthes est consacré ? Sans doute. Par la grâce du punctum, comme par celle de tout geste divinatoire, le « ça a été » ne demeure pas dans la dimension abstraite d'un passé révolu ou résolu. Au contraire, il produit à la fois du « là » de la présence et de l'ailleurs de la séparation, du présent et du différé. Et c'est cela même qui fait trembler le temps de pause entre l'arrêt et la prise, entre le passé et, ce qui est fondamental bien sûr, le désir. C'est cela qui fait aussi de la photographie une affaire de spectre. Et c'est, si ce n'est comme Barthes s'y risque à un moment, lorsqu'il parle de résurrection. Et c'est alors que le punctum, qu'il dit être exorbitant, je cite, à l'égard de nos habitudes visuelles, va devenir indialectique à l'égard de tous nos schémas temporels. En disant que la photographie a quelque chose à voir avec la résurrection, Barthes admet qu'il se livre à des questions, dit-il, qui relèvent d'une métaphysique bête ou simple. Mais c'est justement cela, affirme-t-il, la vraie métaphysique. En tout cas, c'est celle qui est accordée avec son souci autographique et avec son souci à l'égard de la photographie. Quelques pages plus loin, il va l'éprouver devant l'une des images qui est dans tout le livre à la fois l'une des plus aimables et l'une des plus funèbres de la chambre claire. Je cite quand même le texte, il est très beau, même si probablement il vous est déjà connu. En 1865, le jeune Lewis Payne tenta d'assassiner le secrétaire d'État américain W. H. Seward. Alexander Gardner l'a photographié dans sa cellule. Il attend sa pendaison. La photo est belle. Le garçon aussi. C'est le studium. Mais le punctum, c'est « il va mourir ». Je lis en même temps « cela sera et cela a été ». J'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu. En me donnant le passé absolu de la pose, aoriste, la photographie me dit la mort au futur. Ce qui me pointe, c'est la découverte de cette équivalence. Je frémis. Magnifique. Je frémis, tel le psychotique de Winnicott, d'une catastrophe qui a déjà eu lieu. Que le sujet en soit déjà mort ou non, toute photographie est cette catastrophe. Bien. On est là dans les paradoxes de la métaphysique bête, hein, ou simple. Oui, Lewis Payne est en attente de sa pendaison, et cependant, ça fait belle lurette qu'il a été pendu. D'accord. Son juge, d'ailleurs, et son bourreau, et peut-être les petits-enfants de son juge et de son bourreau, eux-mêmes sont déjà morts. Il y a un sophisme, là, bien sûr. Ce sophisme, c'est évidemment la temporalité de l'image qui a été passée à la trappe de tous ces verbes « être », quand on dit « il a été »,« il attend », etc. Il y a aussi d'autres paradoxes dans cette analyse, c'est que le frisson éprouvé par Barthes devant cette situation, il attend sa pendaison, ce frisson a sa source dans le studium, pas du tout dans le punctum. Et c'est une émotion surgie du contraste entre la belle indifférence de ce jeune homme. D'ailleurs, ce jeune homme ressemble, on pourrait se dire, tiens, il ressemble à Andy Warhol, ou il ressemble même à Paul Morisset, ou je ne sais pas. Et le contraste avec la légende terrible qui se lit en bas de l'image. D'autre part, cette beauté du sujet qui pose relève plutôt, et là aussi il y a une sorte d'inversion, c'est pas le studium, c'est le punctum, puisque comme dans la photographie du jeune Cambodgien, le regard de l'aimable plonge ici encore dans les yeux du spectateur, le spectateur, comme il dit Barthes, seul et malheureux, hein, que fut sans doute Barthes à ce moment de regard. D'où un trouble d'autant plus grand et d'autant plus poignant qu'à la situation érotisée vient coller un motif funèbre. Et la mort qui était derrière le jeune Cambodgien dans l'espace se trouve désormais devant le jeune Américain dans le temps. Peu importe ces contradictions ou ces paradoxes que je signale, ce qui compte, ce qui marque véritablement la flèche du punctum dans le regard de Barthes, ce sont bien ces simples mots « je frémis ». Vous avez été nombreux à n'avoir pas frémi devant cette photographie publiée en grand format A3 dans le Nouvel Obs à l'époque. Mais moi, Roland Barthes, j'observe avec horreur et je frémis. Et comme il dit dans une autre page du livre, je suis seul à voir. Cela pour dire l'essentiel du punctum, une unité extrêmement subjective, bien sûr, qui dit quelque chose du regard, mais du coup, qui ne dit rien d'objectivable, ni de vérifiable, ni, là est la question peut-être aussi que je vous posais tout à l'heure, ni de partageable. La question de la communauté. Et c'est aussi cela que veut dire Barthes avec l'adjectif « intraitable ». Il y a dans l'image quelque chose, le plus essentiel, le plus poignant, que je suis seul à voir. Et le retour du motif émotif chez Barthes, en tant que penseur des signes et des images, ne pouvait donc aller sans une légitimation, sans une espèce d'étrange, de merveilleuse et problématique autorité accordée au « je solitaire », amoureux ou malheureux, amoureux et malheureux. Je termine peut-être aussi, comme Julia Kristeva a terminé, sur un motif qui est fondamental dans toute cette position de l'image en tant que nœud de l'aimable et du funèbre, c'est la figure des mères. Je dis bien les mères, je ne parle pas seulement de sa mère, Henriette Barthes, dont une photographie apparaît déjà au frontispice du Roland Barthes par Roland Barthes, avec cette étrange confusion, disjonction du nom répété de l'auteur sur la page de titre à droite, là, et de l'image féminine qui lui fait face. C'est un dispositif proprement extraordinaire. Et dont une photographie plus ancienne, comme vous le savez bien, hante littéralement toute l'écriture de la chambre claire. Mais je parle des mères au pluriel. Je parle des mères qui forment cette grande figure où se cristalliserait toute une part de l'écriture barthésienne sur les images et sur la question des émotions partageables ou non. La grande question, elle est là. C'est lorsqu'il parle de Maria Cazares dans les années 50, un texte absolument sublime, jusqu'à l'écriture endeuillée de 1980, en passant bien sûr par Mère Courage et Les Pleureuses d'Odessa. Or, cette figure revêt chez Barthes un statut aussi paradoxal que fondamental. Il dit lui-même, il le dit avec l'aide de la théorie psychanalytique, avec notamment la référence au fameux texte de Manoni, je sais bien, mais quand même, il dit « oui, ce que je construis, c'est une figure du déni, de façon à ce que l'aimable du désir vienne se lever dans le funèbre du deuil, selon cette évidence obtuse que Barthes a voulu chaque fois se donner. » Sans doute est-ce la perte des émotions tragiques, celles dont il parle à propos de Maria Cazares ou de la tragédie antique, qui sont des émotions dont il dit très précisément qu'elles valent d'être collectives et politiques, la perte de ça qui aura déterminé chez lui la division sens obvi, sens obtu. Dans le sens obvi, d'une certaine façon, on est encore dans la tragédie et il faut passer à autre chose pour Barthes avec le sens obtu. Je note que tout cela commence avec la situation théâtrale et photographique, ça c'est sans doute la situation extrêmement exemplaire de cette disjonction, avant le troisième sens, dont je vous montre là l'illustration dans les cahiers du cinéma, c'est lorsqu'il commente les photographies de Pic, les photographies de Mère Courage, montées par Brecht. Situation centrée sur une délégitimation de la douleur maternelle. Vous avez Mère Courage à droite, elle crie la mort de son fils, et vous avez l'aumônier là qui s'en va, et voilà ce qu'il dit, je cite, qui est une phrase douloureuse pour moi de citer. « La douleur de la mère insignifiante en soi, fait place à l'élément marginal élu par Barthes, comme ce manteau, ce bout de manteau, c'est déjà un punctum évidemment, de l'aumônier, promu, dit-il, comme ce qu'il y a de plus bouleversant ici. Donc, cette disjonction, elle s'opère à ce moment-là. C'est à ce moment aussi qu'un retournement fantasmatique capital va commencer de se mettre en place. Là, je ne fais qu'esquisser les choses. C'est lorsque, justement, à propos de la mère de Brecht, l'auteur des Essais critiques remarque que son sujet même, il dit, le sujet de la mère, je cite, le sujet de la mère, c'est tout simplement, comme son titre le dit, la maternité. Alors donc, on se dit, tiens, Barthes ne nous donne pas l'habitude de telle évidence. Et tout de suite, il écrit ceci. Dans la mère, le rapport de maternité est inversé. C'est le fils qui accouche spirituellement la mère. Bon, ça a été dit dans 1960. Eh bien, on est exactement dans la situation de la chambre claire. Quand le fils mourra, c'est toute l'épaisseur affective de la mère en tant que mère traditionnelle qui devra faire place à ce qu'il appelle le pur processus de conscience. Je cite, « L'amour n'est pas ici effusion, il est cette force qui transforme le fait en conscience. » Alors, c'est évident que l'analogie surgit, je ne peux pas la construire, là je vais terminer. Mais par analogie, il me semble évident que Roland Barthes aura voulu lui-même accoucher spirituellement la mère, cela dès le frontispice du Roland Barthes par Roland Barthes, mais bien sûr, surtout dans la grande entreprise spirituelle et maternelle de la Chambre claire. Merci.